Matière à penser, Antoine Garapon.
Et second épisode ce soir de notre semaine sur Laure Daly. Second épisode qui sera consacré à l'importance centrale du mécanisme de Laure Daly pour résoudre les affaires judiciaires dans l'histoire du droit. Et nous serons en compagnie de Robert Jacob. Laure Daly n'est pas qu'une pratique irrationnelle réservée aux contrées exotiques, à l'Afrique, comme on l'a vu hier avec Raymond Verdier. Elle s'est en effet bien accommodée de la chrétienté et elle a d'ailleurs persisté tardivement jusqu'au début du XIIIe siècle en Occident, 1215 très précisément, date à laquelle elle a été interdite par le pape dans le concile de Latran. Mais elle n'en a pas moins continuer à structurer durablement le procès pénal, notamment, et en Angleterre plus précisément. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Robert Jacob. Robert Jacob est historien et on lui doit un ouvrage fondamental intitulé « La grâce des juges, l'institution judiciaire et le sacré en Occident » et c'est aux éditions des Puffs. Robert Jacob, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs, qui ne sont pas tous des historiens du droit, en quoi consiste Laure Daly et quelle forme elle avait au Moyen-Âge ?
Bon, alors, je crois que quand on fait de l'histoire judiciaire, on doit adopter de Laure Daly une définition extrêmement rigoureuse. Hein, définition extrêmement rigoureuse par rapport à un emploi du terme qui est assez fluide et même élastique dans une foule de domaines, y compris d'ailleurs dans des domaines des sciences humaines, où on en est venu à appliquer le terme à des rituels d'initiation, à la torture, à toutes sortes d'épreuves plus ou moins douloureuses, épreuves physiques.
Alors c'est un peu ce que nous allons faire cette semaine, mais on va le faire délibérément et en utilisant un usage métaphorique de Laure Daly. Mais je vous laisse continuer.
Alors, dans le champ de l'histoire judiciaire, l'usage non métaphorique implique de s'en tenir au terme, donc qui est en fait l'anglais ordeal, dérivé d'un germanique ordal, qui est d'ailleurs un terme assez limpide. Limpide, hein, c'est départagé, hein, littéralement, to deal, or deal, départagé, teilen, urteilen en allemand. Donc c'est l'acte par lequel on tranche un litige. Alors on le tranche de quelle manière ? Là il y a des éléments récurrents qui interviennent aussi bien dans le Moyen-Âge occidental que dans les pratiques africaines dont parlait hier Raymond Verdier et qui sont d'abord la parole, hein, c'est indispensable. Il faut qu'il y ait une prise de parole de celui qui va passer l'Laure Daly avec l'espérance de la réussir, et qui s'apparente à un serment, en réalité, qui s'apparente même tellement à un serment qu'on peut pratiquement les confondre. Donc c'est une affirmation de la justesse de sa cause.
Et une affirmation qui prend le risque de la punition s'il ne dit pas la vérité.
Bon, certes, mais d'abord une affirmation. Donc je n'ai pas volé ou je suis innocent du vol dont on m'accuse ou je suis propriétaire de cette terre dont on me dispute la propriété. Cette affirmation, lorsqu'elle est un simple serment, elle l'est effectivement prononcée devant les dieux avec le risque d'une punition, mais alors oui. Une punition différée. Hein, les dieux ou Dieu, si nous sommes dans un univers chrétien, punira, mais il choisira le moment de punir la parole fausse. Dans le cas de Laure Daly, l'intervention des puissances surnaturelles est actualisée, puisque on va procéder à une épreuve, on va mettre le corps de celui qui a prononcé la parole en contact avec des substances dangereuses, toxiques. Bon, il y a en gros trois grands schémas de Laure Daly. Ce sont les Laure Daly du feu, les Laure Daly de l'eau froide et des Laure Daly par ingestion de poison ou de substances plus ou moins vénéneuses.
Alors comment ça se passe concrètement, Laure Daly par le feu ? Concrètement, comment ça se passe?
Alors, concrètement, il faut savoir qu'on doit avoir affaire à une épreuve qui a l'air miraculeuse. Donc, le côté spectacle est absolument indispensable. Hein. Le côté spectacle et la fascination que l'on attend de cette épreuve sur le public. Généralement, d'ailleurs, il y a un public très nombreux. Hein, les ordalies africaines se passent devant un grand public, et ce qu'on sait de l'ordalie médiévale montre qu'elle se passe également devant un public assez nombreux. Le public doit être en état de sidération. L'épreuve doit passer pour miraculeuse, mais cependant, il y a des techniques qui permettent de la réussir. De toute façon, il faut toujours qu'elle soit possible. Hein. Je veux dire, des erreurs qu'ont pu commettre certains historiens, c'est d'accorder trop de crédit à des ordalies imaginaires, à des récits légendaires. Ce sont des épreuves qui sont en réalité impraticables si on veut vraiment résoudre un litige par ce moyen. Bon, ce qui caractérise ces épreuves, je vais en prendre une qui est peut-être la plus simple, l'ordalie des eaux froides. Alors qu'est-ce que c'est que l'ordalie des eaux froides? C'était une épreuve qui pouvait être terrifiante dans des sociétés comme la société médiévale, où le paysan, le guerrier qu'on mettait en présence de l'eau se trouvait face à un élément tout à fait étranger. Hein. En quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste à s'immerger et à rester en immersion pendant un certain temps. Bon, en réalité, c'est une simple épreuve d'apnée. Hein. C'est une simple épreuve d'apnée que de nos jours, beaucoup de gens sont parfaitement capables de réussir. Donc, il y a toujours à l'arrière-plan de l'ordalie, je pourrais vous faire d'ailleurs la même démonstration pour ce qui concerne les ordalies du feu, il y a toujours à l'arrière-plan de l'ordalie un côté illusionniste. Il faut partir de l'idée que ces épreuves sont toujours une mise en scène, mais une mise en scène qui est organisée et qui est organisée de telle façon que le couperet tombe toujours dans ce qui est défini socialement comme le bon sens.
Oui, mais Robert Jacob, moi je m'imagine bien le supplice de la baignoire, on dirait aujourd'hui, dirait la CIA, c'est-à-dire on immerge quelqu'un, on teste son apnée. Mais le feu, c'est quand même plus difficile à se représenter. Quand on prend un brandon dans la main, incandescent, ça brûle. Excusez-moi d'être aussi prosaïque.
Je ne peux pas vous donner les trucs, mais je peux vous dire que j'ai des collègues au CNRS qui sont des praticiens des neurosciences et qui ont fait des tests très approfondis sur la marche sur les charbons ardents, par exemple. Je crois que leur corps s'établit autour d'environ 60 mètres. Donc, avec un certain entraînement, en réalité, on y arrive. Une main très calleuse, par exemple. Une main très calleuse permet de passer des épreuves, et ça, les gens du Moyen-Âge le savaient parce qu'ils le disent, passer des épreuves du feu plus facilement que si on a une main qui ne l'est pas. Plus alors une série de ficelles qui peuvent émaner soit de celui qui passe l'ordalie lui-même, soit de celui qui l'a fait passer. Et c'est ici, évidemment, que l'intervention de l'organisateur de l'ordalie, le ritualiste, peut-on dire. Alors je ne sais pas si hier Raymond Verdier a évoqué la question, mais les cabillés qui passent des ordalies l'appellent le charlatan.
Hein, oui, ça dit bien son nom.
En franco-africain. Bon, le charlatan, c'est tout de même une démystification de la fonction. Donc je veux dire, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que tous ceux qui se prêtent à ces épreuves ne sont pas des naïfs, hein, et qu'on est continuellement entre la croyance et l'incrédulité, hein, qui font partie de l'épreuve elle-même.
Oui. Mais ce que ça veut dire, parce que alors là, j'essaie de m'imaginer une cérémonie au Moyen Âge avec le charlatan, l'organisateur de l'ordalie. Il manipule, il y a un peu de manipulation, c'est ça
un peu de manipulation.
Mais est-ce que cette manipulation est une bonne manipulation ou une mauvaise manipulation? Est-ce qu'en réalité, on cherche à faire consacrer des preuves et une suspicion très très forte à l'égard de quelqu'un, ou est-ce que c'est entièrement dilatoire?
Bon, si on fait des approches de type statistique pour autant qu'on puisse le faire, ce qu'on peut dire, c'est que l'ordre d'Ali généralement profite à celui qui la passe. Hein. Donc voilà. On a des taux de réussite qui sont très élevés, de l'ordre de 2/3 en moyenne, avec parfois des ordres d'Ali qui débouchent sur une réussite totale, 100% de réussite. Donc par exemple, un exemple en 1098, c'est l'exemple de 50 nobles anglo-saxons qui sont accusés d'avoir commis des délits de chasse. Ils passent 50 ordres d'Ali par le fer rouge, 50 réussites. Non, c'est parfait. Bon,
donc c'est des délits de chasse aussi.
ce genre de déroulement montre que en réalité l'épreuve doit être nécessairement maîtrisée par par quelqu'un. Maintenant, si on aborde la question du Moyen-Âge, il y a un autre problème. Je disais il y a très peu de temps qu'on se situe toujours dans la pratique de l'ordre d'Ali entre la croyance et l'incrédulité, mais évidemment il faut un minimum de croyance pour que l'épreuve fonctionne socialement. Et cette croyance dépend de systèmes de croyance. Et ces systèmes de croyance, nous ne pouvons pas savoir ce que ressentait psychologiquement celui qui passait une ordre d'Ali, ni ce que ressentait celui qui assistait.
Est-ce qu'ils y croyaient?
Alors, nous ne pouvons pas le savoir, mais ce que nous pouvons connaître, c'est le système de croyance sur lequel repose le déroulement de l'épreuve. Et alors là, on a des systèmes de croyance qui sont assez différents, parce que on a d'un côté des systèmes de croyance que j'appellerais schématiquement païens, ou qui relèvent de sociétés polythéistes, qu'on peut étudier en Afrique par exemple, mais aussi bien dans les minorités ethniques chinoises, où il y a toujours une pratique actuelle de ces
épreuves. Est-ce que les Gaulois étaient polythéistes?
Les Gaulois étaient polythéistes, mais on n'a pas de données sur une éventuelle pratique de l'ordre d'Ali. Dans ces cas-là, les dieux sont convoqués à l'ordre d'Ali comme garants, en quelque sorte. Hein. On les appelle, celui qui passe l'épreuve, les appelle en garantie de la sincérité de sa parole. Avec le Moyen-Âge occidental, alors je dis bien le Moyen-Âge occidental parce que le phénomène
donc chrétien
est propre au Moyen-Âge chrétien et latin, à l'exclusion du christianisme grec. Avec le Moyen-Âge occidental, nous avons un système de croyance qui est tout à fait spécifié, tout à fait défini dans ses formes, puisqu'il s'agit de la théologie chrétienne. Et un des grands problèmes des hommes du Moyen-Âge, et un des grands problèmes de l'historien d'ailleurs, un des grands problèmes de l'homme du Moyen-Âge, c'est de concilier la vision chrétienne du monde avec la pratique de ce qu'ils vont appeler le jugement de Dieu. Et un des grands problèmes de l'historien, c'est de décoder la façon dont ils ont mis en place ce système de comptabilité, cette articulation, qui ne va absolument pas de soi, parce que les religions monothéistes sont fondamentalement, dans leurs principes, hostiles à l'ordre d'Ali.
Oui, et hostiles au serment, en ce qui concerne la religion chrétienne, parce qu'on sait qu'il y a une méfiance de l'Église ancestrale à l'égard du serment, précisément à cause de son côté magique, magico-religieux, le contact, tout ça ne vient pas du cœur.
Ce sont deux choses qu'il faut bien distinguer. Oui. Donc, qu'il s'agisse du judaïsme, de l'islam ou du christianisme, une religion monothéiste peut être plus ou moins favorable ou défavorable au serment, mais elle ne le condamne pas dans son principe. Parce que dans le cas du serment, on laisse à la divinité le choix des conditions dans lesquelles elle punira.
C'est ça. Ce que vous nous expliquez, nous rappeliez en début d'émission. Mais alors, le jugement de Dieu, Robert Jacob, le jugement de Dieu, c'est quand même très particulier parce que, à vous lire, c'est une combinaison de l'ordre d'Ali et de la foi chrétienne.
Alors, c'est une combinaison qui est tout à fait paradoxale, qui ne s'imposait pas. Si on suit les premiers siècles de l'ère chrétienne, il n'en est tout simplement pas question. Hein, la patristique et les textes canoniques des décrets et des conciles ne se prononcent pas du tout sur la question. Ils n'ont même pas à se prononcer sur la question. On a le sentiment qu'on n'a même pas envisagé le problème.
Mais en quoi ça consiste, les jugements de Dieu?
Alors, c'est le jugement de Dieu consiste à transgresser l'interdit qui est posé par toute religion monothéiste et à admettre l'idée extrêmement scabreuse, que la justice de l'être le plus parfait qui soit puisse être instrumentalisée par les hommes pour la résolution d'un litige purement humain.
C'est ça.
Alors ça, c'est inacceptable d'un point de vue musulman. Il n'y a pas de jugement d'Allah. C'est inacceptable du point de vue du judaïsme. On peut discuter de l'interprétation de certains textes du Deutéronome, mais il est clair qu'on ne va jamais dans le sens du miracle provoqué par les hommes et rendu opératoire, c'est-à-dire rendu susceptible de résoudre un problème pratique
sur Terre,
qui est un litige, voilà. C'est tout aussi inacceptable du point de vue du christianisme grec, et d'ailleurs les autorités du clergé slave ou du clergé byzantin ont été horrifiées à l'idée de voir ce qu'ils appelaient à l'époque les Francs au milieu du Moyen-Âge arriver, fonder l'Empire latin de Constantinople par exemple, avec dans leur bagage une ordalie jugement de Dieu. Hein. Donc, c'est quelque chose qui s'est créé dans l'Occident latin et qui se crée avec l'Empire carolingien. Hein, ça, on peut vraiment dater, ce n'est pas un phénomène qui viendrait de la nuit des temps, comme on dit, c'est-à-dire qui échapperait au regard de l'historien. Il est tout à fait possible de le dater.
Mais Robert Jacob, comment ça consiste? Expliquez-nous, décrivez-nous un jugement de Dieu concrètement, comment ça se passe? Quelle est sa particularité
Alors, un jugement de Dieu, concrètement, c'est tout ce que j'ai dit de l'ordalie, ou tout ce que Raymond Verdier pouvait dire hier de l'ordalie africaine. C'est-à-dire que sur le plan technique, sur le plan pratique, c'est exactement la même chose. Mais il y a une construction rituelle qui est un appel à la justice divine. Il faut faire en sorte que Dieu soit présent.
Qu'il intervienne dans une affaire individuelle.
Voilà, dans le rituel. Et donc, c'est une construction rituel qu'on peut étudier chez les liturgistes de l'époque carolingienne, à un moment où, précisément, et c'est un moment tout à fait particulier, parce que le pouvoir pontifical est pratiquement inexistant, le pouvoir carolingien n'a aucune bureaucratie ni aucun pouvoir policier, et j'ai avancé à son sujet l'idée d'un gouvernement par les rites que j'emprunte de manière plus ou moins heureuse à la Chine où là, alors on a beaucoup gouverné par les rites, mais chez Charlemagne il y a de ça, si vous voulez, c'est-à-dire que beaucoup de textes législatifs d'époque carolingienne, ce qu'on appelle les capitulaires, sont en fait des textes qui interviennent sur des questions de liturgie. Hein. Et l'idée est, il faut que dans l'Empire, dans cet immense Empire que nous contrôlons si mal, il faut que tous les hommes fassent la même chose en même temps, ou qu'en tout cas ils accomplissent les mêmes gestes, prononcent les mêmes paroles. Il faut créer, j'emprunte le terme au capitulaire de Charlemagne, l'unanimitas, c'est-à-dire l'union des âmes avant d'être l'unanimité, en faisant en sorte qu'ils écoutent tous la même messe, qu'ils participent à la même messe, qu'ils participent au même rituel, et le jugement de Dieu, l'invention du jugement de Dieu, doit se comprendre dans cette perspective.
Foucault dirait que c'est une gouvernementalité. C'était une gouvernementalité par les rites. Oui, par le rituel, par le symbolique.
C'est une gouvernementalité par le rituel.
C'est ça.
Et alors, on peut suivre des expériences qui ont été faites par les clercs carolingiens, avec des essais et des erreurs. Donc, on tente de mettre en place, en particulier sous Pépin le Bref, une forme d'ordalie tout à fait particulière qui s'appelle l'ordalie de la croix, et puis ça ne marche pas.
C'est-à-dire qu'on demande aux gens de mettre les bras en croix et jusqu'au moment où ils ne peuvent plus tenir.
Voilà, c'est ça.
C'est très simple.
Et puis on abandonne cette perspective et on crée alors autre chose. La thèse que j'ai développée et argumentée est que l'autre chose, ce qui va marcher, c'est de faire de l'ordalie une espèce de règlement des litiges dont le paradigme est au fond l'Eucharistie. C'est-à-dire que sachant que le sacrement par excellence est l'Eucharistie, il faut installer au cœur de l'ordalie une présence divine qui ne peut être que la présence de l'hostie, la présence des espèces consacrées, le pain et le vin de la communion, présence qui finit par se créer tout simplement dans le corps de l'officiant. On communie avant de passer l'épreuve. Et c'est cette communion qui est le garant divin de la validité de l'épreuve.
Donc les clercs, les prêtres sont intimement liés à la réussite du jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu qui se fait par les prêtres et par le clergé.
Ils sont complètement impliqués. Ils sont complètement impliqués non seulement au niveau du bas clergé, mais jusqu'au niveau épiscopal. Donc, il y a des évêques qui participent à l'administration des ordalies. Ça fait partie du ministère des cultes.
Hein. C'est partie de l'administration judiciaire, on dirait aujourd'hui, pour prendre un terme contemporain.
Tout à fait. Donc l'évêque ou le prêtre, peu importe, mais le prêtre dit la messe, le prêtre administre la communion et il est le garant tout à fait officiel de la présence divine dans l'épreuve et donc de la divinité du jugement.
Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours sur les ordalies médiévales avec Robert Jacob, historien du droit. Robert Jacob qui a choisi de nous faire écouter un passage de Lohengrin que vous venez d'entendre sous la baguette de Colin Davis avec le chœur de la radio bavaroise. Pourquoi Lohengrin, Robert Jacob ?
Ah ben c'est un des très rares opéras qui met en scène un duel judiciaire, donc le duel de Lohengrin et de Telramund pour faire la preuve de l'innocence d'Elsa de Brabant.
Oui, c'est ça. Donc, un duel judiciaire. Mais ça veut dire que l'ordalie, elle se fait à deux dans le duel judiciaire. C'est-à-dire que c'est celui qui gagne qui a nécessairement raison parce qu'il est soutenu par Dieu. C'est ça le...
Oui, on est un peu à la limite de l'ordalie dans ce cas-là. Parce que les clercs du Moyen-Âge considéraient que, au fond, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire l'administration de la communion, n'était pas absolument indispensable. Il y avait un serment de chaque côté, un serment de validité des deux thèses opposées, et puis le combat judiciaire désignait un vainqueur, mais le vainqueur, au fond, était vainqueur sur son serment, et non pas sur une quelconque présence divine.
Mais alors, en 1215, coup de tonnerre, parce que le pape interdit les ordalies, interdit le jugement de Dieu. Pour quelle raison, d'ailleurs, Robert Jacob ?
Alors, n'interdit pas le duel à proprement parler.
Non, il interdit l'ordalie,
mais
pratiquée par des clercs.
Interdit l'ordalie comme jugement de Dieu, en tout cas interdit la participation des clercs à ces cérémonies. Ce qui va entraîner à terme leur déchéance, donc très très rapidement en Angleterre, beaucoup plus lentement sur le continent. Alors pourquoi les interdisent-ils? Mais la bonne question est plutôt la question inverse de savoir pourquoi on les avait tolérés. Parce que les raisons pour lesquelles on les interdit sont des raisons pour lesquelles on aurait dû toujours les interdire. Oui. C'est cette idée de la transcendance de la justice divine qui s'oppose à toute instrumentalisation dans le procès. Et donc la véritable question, c'est celle à laquelle j'ai répondu un peu par anticipation, c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, un pouvoir, en l'occurrence le pouvoir franc, a choisi d'institutionnaliser cette machine à résoudre les litiges.
Mais alors, du coup, cette interdiction de 1215 oblige ce qu'on appellerait les Occidentaux aujourd'hui, c'est-à-dire les Anglais, les Français, les Allemands, à inventer autre chose pour se substituer au rituel de l'ordalie. Ils ne peuvent plus faire d'ordalie et donc ils doivent régler les litiges judiciaires eux-mêmes, Robert Jacob.
Oui, et alors là, ce qui est intéressant et ce qui m'a attiré dans l'étude de l'ordalie et ce qui participe de ce que vous avez indiqué aussi au début de l'émission, c'est-à-dire le côté au fond toujours actuel cette histoire a priori.
Tout à fait, c'est d'où l'intérêt de reconstituer cette histoire.
C'est que en se retirant, l'ordalie laisse de sérieuses traces, avec à mon avis une trace, mais elle est considérable. C'est dans toutes les cultures judiciaires européennes l'idée d'une justice indépendante, c'est-à-dire que la justice étant d'ordre divin, celui qui administre la justice, le juge, est responsable non seulement devant le roi ou devant le seigneur dont il tient sa charge, mais aussi devant Dieu. Et là, c'est un thème qui va être récurrent dans toute la littérature juridique de la fin du Moyen-Âge et au-delà d'ailleurs des temps modernes.
Comme s'il avait fallu passer par l'ordalie et la participation miraculeuse de Dieu dans des affaires individuelles pour qu'ensuite le juge qui en prenne la place continue d'avoir cette dette à l'égard de Dieu.
Oui, je le crois. Je le crois parce que en fait, on n'a pas cette thématique de la nécessaire indépendance du juge dans les systèmes juridiques et judiciaires qui ne sont pas passés par là.
C'est ça. Notamment pas en Chine.
Notamment pas en Chine, où c'est très flagrant.
C'est ça. Oui, alors ça veut dire que c'est très intéressant, parce que ce détour montre que il y a toujours une place pour Dieu qui devient le grand absent, qui devient le tiers invisible, toujours présent, même s'il n'intervient plus.
Oui.
Alors, comment ça va se passer dans les différents systèmes européens? Parce que tous ne vont pas trouver des mêmes solutions de remplacement à la disparition de l'ordalie.
Alors, c'est aussi ce qui m'attirait dans l'étude de ce phénomène, c'est que c'est à ce moment-là, au lendemain de 1215, que se produit une scission qui fermentait probablement dans les siècles précédents, mais enfin là, elle devient très apparente, entre les deux grandes branches de la culture juridique européenne, qu'on appelle la culture romano-canonique d'une part. Romano-canonique à romano-germanique. Germanique, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Donc la culture romano-canonique d'une part.
La nôtre, celle de
la nôtre. Et la culture de common law d'autre part. Alors, schématiquement, du côté romano-canonique, l'ordalie est. La disparition de l'ordalie n'est pas compensée par un mécanisme de type équivalent, mais est compensée par une justice de l'acte écrit et d'une certaine manière une justice de bureaucrate.
De l'enquête.
Alors l'enquête sur un document écrit préalable. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, la matrice de ce système de procédure, c'est la procédure ecclésiastique telle qu'elle est développée dans la période classique du droit canonique, c'est-à-dire principalement le XIIe siècle. Procédure classique qui suppose un écrit. Hein, il y a production d'un écrit lequel expose la thèse de la demande.
Ça part d'un écrit.
ça part d'un écrit, c'est la vérification d'un, au départ c'est la vérification d'un écrit par lequel le juge canonique prend note, prend connaissance d'une thèse, et puis cette thèse devient elle-même susceptible de contradiction, et donc se met en place un mécanisme qui est le mécanisme de l'enquête comme un mécanisme idéal de vérification des, alors cette fois-ci non pas de l'écrit initial, mais des deux écrits, puisque les deux parties ont produit des écrits à l'appui de leur thèse opposée.
Alors Foucault va beaucoup revenir très longuement sur la vérité des formes juridiques, sur le devenir de l'enquête, dans lequel d'ailleurs Michel Foucault voyait la naissance de la recherche scientifique, c'est-à-dire d'une recherche à partir de documents écrits, par comparaison et par une opération absolument rationnelle des documents, c'est le dossier judiciaire. Mais Robert Jacob, ce qui est plus intéressant, parce que c'est le système opposé, celui qu'on voit tout le temps, qu'on comprend pas très bien, c'est ce qui se passe en Angleterre, c'est le procès de Common Law, qui reste beaucoup plus proche de Lord Halley, lui.
Alors, le procès de Common Law reste beaucoup plus proche de Lord Halley, pour évidemment toute une série de raisons. D'abord parce que Lord Halley avait été au XIIe siècle très pratiqué et d'une certaine manière détourné de ce qui est sa fonction traditionnelle. Je vous disais pendant la première partie de l'émission que en général Lord Halley est faite pour être réussi et que les taux de réussite
pour ne pas condamner
sont relativement élevés, beaucoup plus élevés que l'échec. Dans l'Angleterre de la fin du XIIe siècle, on observe une espèce de détournement en sens inverse, c'est-à-dire que l'accusation est ratifiée par une Lord Halley qui tourne systématiquement au détriment de l'accusé. C'était une Lord Halley des eaux froides, donc c'est une Lord Halley par immersion. Les malheureux paysans anglais étaient très peu familiarisés avec la natation et l'apnée, et donc autrement dit, on obtenait des taux de condamnation vertigineux. Alors, lorsque l'interdiction de 1215 arrive. Ce qui est très remarquable, c'est que les Anglais sont au fond les meilleurs élèves de la classe à ce point de vue-là. Ils sont les plus obéissants, ils sont les premiers à la supprimer radicalement. Et il n'y a pas d'Lord Halley postérieur à 1215 en Angleterre. Mais alors la solution qui va finir par s'imposer après quelques flottements, c'est de remplacer Lord Halley par un jury. Remplacer Lord Halley par un jury, c'est-à-dire il y a le jury d'accusation qui existait déjà et qui allait envoyer le malheureux accusé à une épreuve qu'il était destiné à échouer dans la plupart des cas. Alors là, on met en place un jury que les Anglais appelleront, que les Américains appellent toujours le petit jury, par opposition au grand. Le grand jury, c'est le jury d'accusation. Le petit jury, c'est le jury de jugement. Mais le résultat, c'est que la procédure anglaise et américaine, aujourd'hui très familière, comme vous l'indiquiez, Antoine Garapon, puisque grâce
aux séries télévisées et aux romans policiers américains,
nul ne peut en ignorer. Donc cette procédure est maintenant bien connue, mais en réalité la décision se fait soit sur la parole de l'accusé, on va en rester au champ pénal, soit sur la parole de l'accusé qui se déclare coupable, peu importe les raisons pour lesquelles il se déclare coupable. D'ailleurs, le juge n'a de toute manière plus aucun pouvoir d'appréciation. Il est lié par cette déclaration de culpabilité qui est produite par l'accusé. Soit il plaide non coupable et on va alors à ce qu'on appelle le trial, le trial au sens étroit du terme. Donc
c'est l'épreuve,
c'est trier au sens trier, livrer du bon grain. Et c'est d'ailleurs le mot français, c'est le verbe français trier qui est à l'origine de l'anglais trial. À ce moment-là, ça se passe devant jury, mais à ce moment-là, de nouveau, comme dans l'ancienne Lord Halley, la vérité judiciaire tombe du ciel. C'est-à-dire le juge est uniquement, chacun connaît ça aujourd'hui à travers toutes les innombrables scènes d'affrontements judiciaires, d'affrontements contradictoires qu'on peut avoir.
Qui est en fait un combat rituel.
C'est un combat rituel. Le juge est simplement un arbitre de l'égalité des armes. Hein, donc il vérifie que les règles du jeu sont bien respectées.
C'est un préparateur d'ordali.
Un préparateur de jury, en oui, tout cas, très ça, certainement, oui. D'une certaine manière, oui. Donc, il vérifie que l'égalité est bien respectée, que les questions n'influencent pas le témoin, que, etc., etc. Il y a toute une déontologie du juge anglais sur les questions qu'on peut poser, sur la façon dont on peut produire les preuves devant le jury. Mais, à la fin, c'est le jury qui décide, c'est-à-dire qu'un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité tombe du ciel et le procès est tranché sur ce verdict.
Et le jury, comme Dieu, ne donne pas ses raisons.
Alors, le jury, effectivement, doit rester dans son principe une institution totalement opaque, c'est-à-dire que les jurés sont tenus à une loi du silence, ils sont tenus à juger selon leur conscience. Au-delà du doute raisonnable, ça, oui. Dira une doctrine américaine, anglo-américaine, qu'on peut dater approximativement de la fin du XVIIIe siècle. Mais la décision, le verdict, la parole de vérité, est une décision qui est, dans son principe, au-dessus de toute motivation.
Mais, Robert Jacob, ce qui est intéressant dans cette histoire des ordalies, et ce que vous nous racontez des Carolingiens 1215 et ce qui va suivre, c'est que les auditeurs le verront immédiatement quand ils voient un procès américain ou une série américaine, c'est que, en réalité, cette distinction, la structure ordalique du procès anglo-américain n'a pas tellement bougé depuis le XIIe siècle.
Non, parce que le jury s'est substitué de manière mécanique à l'ordalie.
Adieu.
Et donc, la conséquence, c'est une conséquence très, très considérable, c'est que dans le procès anglo-américain, la vérité des faits est toujours déterminée en dehors du juge lui-même. Hein. Le juge constate la façon dont elle se crée par le dialogue des parties. Il est, le cas échéant, lié par la parole de l'une d'elles qui se déclare coupable. Il est lié par le jury, mais au fond, et c'est la grande différence entre un juge anglo-américain et un juge français, allemand, italien, etc., c'est que le juge anglo-américain, tout comme l'institution judiciaire du temps carolingien, n'a pas à se déterminer sur la vérité des faits, hein, puisque la vérité des faits lui est toujours donnée de l'extérieur.
Oui, mais alors ça va très loin, ce que vous dites, Robert Jacob, parce que ça voudrait dire que pour la justice anglo-américaine, pour la justice américaine si présente aujourd'hui, et la justice française, celle que nous connaissons aussi, la vérité elle-même n'a pas le même sens. C'est-à-dire que dans un cas, on a une vérité un peu artificielle, on a une vérité rituelle. Dans l'autre cas, on a une autre vérité.
C'est la conclusion de ces études et de ces recherches sur l'ordalie. C'est qu'il y a deux conceptions de la vérité judiciaire fondamentalement différentes que j'appelle respectivement conception de l'avoir été ou vérité de l'avoir été ou vérité du devoir être. Vérité de l'avoir été. Bon, le juge français va multiplier les enquêtes, multiplier les expertises qu'il dirige lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas aux parties à produire des experts, des rapports d'expertise, le cas échéant, au sens différent. Le juge français va chercher la vérité, se faire lui-même une idée de la vérité.
La vérité de ce qui s'est passé le jour du crime.
La vérité de ce qui s'est passé. Et en cela, le juge français est le continuateur du juge ecclésiastique de la procédure qu'on appelle inquisitoire, non peut-être sans quelques confusions ou malentendus, en tout cas de la procédure d'enquête que développent les juges ecclésiastiques à partir du XIIIe siècle, c'est-à-dire que le juge lui-même est ministre de la vérité en respectant un certain nombre de règles très contraignantes dans la recherche des preuves et dans l'administration de la vérité.
Et de règles déontologiques, on dirait aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
C'est ça, il faut qu'il soit très strict et il découvre la vérité par science et conscience.
Tout à fait. Alors que la vérité judiciaire anglo-américaine est ce que j'appelle non pas une vérité de l'avoir été, mais une vérité du devoir être. Hein. C'est la vérité telle qu'elle doit être pour jouer son rôle de pacification sociale. Celui qui dit « je plaide coupable », a très souvent, nous le savons, la conviction qu'en réalité il est innocent. Mais qu'il a le dossier contre lui, que tout l'accable, que ses chances dans le procès, si on va jusqu'au jury, sont extrêmement limitées. Et donc, en plaidant coupable, il évacue tout débat sur les circonstances dans lesquelles l'acte répréhensible a été commis, d'éventuelles questions d'intentionnalité, etc. Tout cela est mis de côté, est mis intentionnellement de côté. Hein, la décision « je plaide coupable » est une décision stratégique. Évidemment, je risque moins en plaidant coupable qu'en allant au trial.
Mais est-ce que les juges le sentent, ça?
Les juges peuvent le sentir, mais ils n'ont aucune prise sur ce qui est en train de se passer. C'est bien la caractéristique du procès anglo-américain et ce qui le rapproche du procès archaïque. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la parole crée la vérité judiciaire, mais je dis vérité du devoir être, hein, que ce soit le verdict du jury ou la parole de reconnaissance de la culpabilité, c'est une vérité du devoir être, c'est-à-dire c'est une vérité de ce qui doit être pour que la justice fonctionne, pour que la réconciliation fonctionne, pour que l'œuvre de remise en ordre de la justice remettant en ordre un tissu qui a été lésé par le conflit, pour que cette œuvre soit possible.
Est-ce que ça veut dire, pour vous, Robert Jacob, que d'un côté, on aurait un procès en Angleterre ou aux États-Unis aujourd'hui beaucoup plus fonctionnel, qui cherche à réguler, à faire fonctionner la société, et que du côté français, on est donc canonique, on a un procès beaucoup plus rationnel?
Bon, j'éviterai ce genre de jugement parce que chacune de ces formes processuelles a évidemment sa logique. On peut pas opposer le rationnel d'une part et l'irrationnel d'autre part. D'ailleurs, je n'emploie pas non plus l'expression justice irrationnelle à propos de l'ordalie médiévale.
Non, mais à partir du moment où vous dites c'est une vérité du devoir être, une vérité du devoir être, c'est un peu moins vrai qu'une vérité de ce qui s'est passé, pour le dire autrement.
En ce sens-là, comme vous dites, c'est fonctionnel. En ce sens-là, c'est effectivement fonctionnel, c'est-à-dire que ça marche, ça cautérise les plaies. Hein. Mais alors maintenant, quant à la question de savoir si l'une des formes judiciaires est plus efficace que l'autre,
ne vous pose pas cette question, Robert Jacob, pas jusqu'au bout, mais ma dernière question, parce que c'est ça qui est sidérant dans ce que vous nous avez raconté sur l'ordalie, qui est le thème de notre semaine, c'est l'incroyable stabilité de ces structures du procès. Pour des peuples très proches, géographiquement, culturellement, restent profondément différentes. Le rapport à la vérité, la manière de faire la vérité des juges et du procès reste profondément différent.
Oui. Mais je ne sais pas si j'ai un commentaire à faire en dehors du constat. C'est-à-dire qu'il y a, on revient quand même sur la question de l'efficacité. Il y a en tout cas une capacité de fascination exercée par la forme anglo-américaine du procès qui explique d'ailleurs le succès de cette forme dans la filmographie, les séries télévisées, le roman, etc. Et qui est devenu qui s'est généralisé. On peut même dire que la forme judiciaire est sortie de la justice pour innerver toute la société
américaine.
Robert
Jacob, sidération que vous reliriez à la forme d'ordalie, à cette fascination qu'exerçait l'ordalie auparavant?
Alors peut-être à cette fascination de l'ordalie, ou alors à la fascination du jeu. À la fascination du jeu, c'est-à-dire à la fascination d'une justice combat.
Merci beaucoup, Robert Jacob. Matière à penser, Robert Jacob, Éric Boissé, Joséphine Lampreya, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain, je vous donne rendez-vous avec Marc Valeur, psychiatre, et on verra la dimension ordalique des addictions, notamment à la drogue. Bonsoir.